Vortex et rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
Aujourd'hui, on va vous parler du recueil de nouvelles L'anniversaire du monde de Ursula Le Guin, publié en 2002 aux États-Unis et en 2006 dans la traduction française de Patrick Dussoulier.
On vous a déjà parlé d'un court roman de Ursula Le Guin en 2021 quand on vous avait présenté Le nom du monde est forêt.
Ursula Le Guin est née en 1929 en Californie et est décédée en 2018. Elle a commencé à écrire très jeune et propose une nouvelle à un magazine à l'âge de 11 ans. Elle a écrit des romans, des poèmes, de la littérature jeunesse, mais deviendra connue grâce à ses romans de science-fiction et de fantasy dans les années 60, et elle recevra de très nombreux prix littéraires. La majorité de ses romans et nouvelles de fantasy se situent dans le cycle de Terre-Mère, sur un continent archipel profondément ancré dans la magie. Ses écrits de science-fiction font partie, en grande majorité, du cycle de l'écumène. Un univers où les habitants-habitantes de la planète Hain ont fait des expériences génétiques et sociologiques en dispersant l'humanité sur des dizaines de planètes. Des milliers d'années plus tard, dans un souci de réparation, IEL vont fonder la Ligue de tous les mondes, puis l'Écumène, une grande organisation transplanétaire pour maintenir la paix. L'écriture prolifique d'Ursula Le Guin permet de retrouver les mêmes planètes dans différents écrits, comme c'est le cas dans le livre L'anniversaire du monde, dont nous allons parler aujourd'hui.
Bien que j'ai investi beaucoup d'efforts dans mon univers fictif, je ne pense pas vraiment l'avoir inventé. Je l'ai rencontré par hasard et j'ai continué ainsi à tâtonner sans méthode précise, en laissant tomber un millénaire par-ci, en oubliant une planète par-là. Des gens sérieux et consciencieux, en le baptisant l'univers de Hain, ont tenté d'en retracer l'histoire et d'en dérouler le fil chronologique. Personnellement, je l'appelle l'écumène, et je pense que c'est un cas désespéré. Son fil chronologique ressemble à ce qu'un chaton retire du panier à tricot, et son histoire est surtout constituée de trous.
Ursula Le Guin a aussi écrit plusieurs essais et de nombreux articles. Et c'est aussi ce qui rend cette autrice si intéressante. Elle n'a pas fait que découvrir des mondes et les étudier. Elle a aussi porté un regard sur ses propres pratiques et sur la science-fiction, le langage, l'écriture en général. Elle a questionné et remis en cause certains de ses choix avec beaucoup d'humilité.
La plupart des 8 nouvelles du recueil L'anniversaire du monde peuvent être rattachées au cycle de l'écumène. Le recueil se lit un peu comme une étude ethnographique. Chaque nouvelle nous amène sur une autre planète, voire sur un vaisseau-monde, toute peuplée d'humains, mais avec des organisations sociales extrêmement différentes. On y retrouve cette écriture de Le Guin qui observe, essaye de comprendre, sans juger, en s'approchant d'assez près parfois, mais en gardant toujours aussi une certaine distance. Dans quelques-unes des nouvelles, il y a des observatrices formées à l'école de l'écumène, qui sont des étrangères sur ces planètes, et qui représentent bien cette posture de l'autrice. L'anniversaire du monde fait certainement partie des écrits les plus féministes de Le Guin, dans le sens qu'elle s'y intéresse particulièrement aux organisations familiales, aux rapports de genre, aux sexualités, aux questions de reproduction et de répartition des tâches, et comment tous ces aspects interviennent dans la construction sociale des individus et la répartition du pouvoir dans ces différentes sociétés. Le Guin ne nous présente pas des utopies, mais plutôt une multitude de modèles de sociétés qui peuvent avoir des aspects attirants ou répugnants, et qui souvent rendent curieuses, mais qui dans tous les cas, par leur variété, rendent impossible toute interprétation essentialisante.
Away, away, hey, yeah. Nom, nom. Go across the hey, yeah. Nom, nom. Oh, mon âme. Whistle you, whistle you, whistle you. Whistle you, sir. Where, hey, yeah. Oh, mon âme, mon âme.
Dans le recueil L'anniversaire du monde, Ursula Le Guin imagine plein de modèles familiaux, autant de variations des rapports de genre et des relations sexuelles. Écoutez par exemple cette explication des coutumes de mariage sur la planète O, sur laquelle se passent les nouvelles Un amour qu'on n'a pas choisi et Coutumes montagnardes, que Le Guin elle-même qualifie de comédie de mœurs.
Si je me marie, par amour, par désir de stabilité, pour avoir des enfants, j'épouse 3 personnes. Je suis un homme du matin. J'épouse une femme du soir et un homme du soir, et avec ces deux-là, j'ai des relations sexuelles. Et j'épouse une femme du matin, avec qui je n'ai pas de relations sexuelles. Elle a des relations sexuelles avec l'homme du soir et la femme du soir. Ce mariage à 4 s'appelle un sedoretu. Il comprend 4 sous-mariages. Les 2 couples hétérosexuels s'appellent matin et soir, d'après la moitié de la femme. Le couple homosexuel masculin s'appelle le mariage de la nuit et le couple homosexuel féminin s'appelle le mariage du jour. Les frères et sœurs des 4 participants primaires peuvent se joindre au sedoretu, ce qui fait que le nombre de personnes dans un mariage peut parfois atteindre 6 ou 7. Les enfants entre eux peuvent avoir une relation de fratrie ou être cousins germains ou des cousins plus éloignés. Il est clair qu'un sedoretu exige beaucoup de préparation.
Si sur la planète O, le sexe et la moitié déterminent les liens socialement admissibles entre les gens, sur la planète Gaten, les humains n'ont pas de sexe et n'ont pas de relations sexuelles amoureuses durables. Une fois par mois, les personnes entrent dans le kéma, c'est-à-dire qu'elles vont développer des organes sexuels femmes ou hommes, se sentir attirées sexuellement et avoir des relations avec d'autres personnes dans le kéma. C'est comme ça aussi qu'elles peuvent se reproduire, mais les relations sexuelles sont surtout vues comme des plaisirs sans autres objectifs. Dès le retour à l'état de soma, les relations sexuelles n'ont pas vraiment d'importance dans l'organisation familiale et sociale.
Les maisons familiales de Rère sont construites autour d'un grand espace central. Chaque étage a une galerie intérieure qui en fait le tour et nous appelons cet étage entier avec ses chambres et ses autres pièces un balcon. Ma famille occupait tout le 2e balcon des reptages. Nous étions très nombreux. Ma grand-mère avait eu 4 enfants, qui avaient tous eu des enfants, de sorte que j'avais une foule de cousins, en plus d'un frère utérin plus jeune et d'un autre plus âgé. Les tades deviennent toujours femmes dans le kéma et tombent toujours enceintes, comme je l'avais entendu dire par les voisins qui étaient envieux, désapprobateurs ou admiratifs, selon les cas. Et ils ne font jamais vœu de kéma, ajoutait toujours quelqu'un. Le premier propos était exagéré, mais le second était exact. Aucun de nous n'avait de père. Pendant des années, je n'ai pas su qui était mon géniteur et je ne m'en suis jamais préoccupée.
Le Guin avait déjà parlé de la planète Gaten dans son roman « La main gauche de la nuit » de 1969. Ce roman a été pas mal critiqué, notamment par des féministes, car malgré l'absence de genre apparent dans la société gaétenienne, les personnages se lisent avant tout comme des hommes, d'une part parce que Le Guin utilise le pronom « he », d'autre part parce qu'elle semble s'intéresser quasi exclusivement aux sphères dites masculines, les sphères publiques de la politique et de la diplomatie. Ces critiques l'ont fait réfléchir, comme Le Guin le raconte dans certains essais et interviews, et 26 ans plus tard, elle rattrape le coup et nous parle beaucoup plus de la vie privée et familiale, de l'intimité des personnages guéteniens, qui apparaissent alors bien plus ambiguës en termes de genre, même si cette ambiguïté reste fortement ancrée dans les limites d'une binarité homme-femme.
Ma mère parente, Dory, avait cessé d'entrer en kéma cet hiver-là. Certaines personnes ne faisaient rien de spécial dans une telle circonstance. D'autres se rendaient dans une citadelle pour y pratiquer des rites. Certaines restaient dans la citadelle pendant des mois ou même définitivement. Dory, qui n'avait guère de penchant pour le spirituel, avait déclaré « Si je ne peux plus avoir d'enfants, et si je ne peux plus faire l'amour, et s'il faut que je devienne vieille et que je meure, alors je peux au moins faire une grande fête. J'ai déjà eu beaucoup de mal à raconter cette histoire dans une langue qui ne comporte pas de pronoms de soma, mais uniquement des pronoms de genre. Dans leurs dernières années de kéma, alors que l'équilibre hormonal se modifie, la plupart des gens deviennent généralement des hommes dans le kéma. Les kémas de Dory ayant été mâles depuis plus d'un an, j'appellerai donc Dory « il », même si, bien sûr, le fond de l'affaire est justement qu'il ne serait plus jamais « il » ni « elle ». Dans ses nouvelles « L'anniversaire du monde », Ursula Le Guin décrit des mondes avec beaucoup de finesse et avec de la curiosité, sans jugement. La question n'est pas de se faire un avis sur un monde, mais de prendre le temps de le comprendre. Dans la nouvelle portant le même titre que le recueil, la narratrice écrit
« Ce que j'ai vu alors n'est pas ce que je vois maintenant, lorsque je regarde dans le lointain passé. Ce que je savais alors est à la fois plus et moins que ce que je sais maintenant. » Je m'efforce de dire ce que j'ai vu et ce que je savais alors.
Ursula Le Guin a une posture de respect qui lui permet de déployer des univers et des fonctionnements sociaux sans les caricaturer, d'y faire exister des histoires, des relations, des aventures. À partir de ces récits, elle observe ce qui se fabrique dans ces mondes, ce qu'ils produisent d'intéressant, d'émancipateur, ou au contraire d'aliénant ou d'enfermant.
Leur déséquilibre des sexes a conduit à une société dans laquelle, pour autant que je puisse voir, les hommes ont tous les privilèges et les femmes tous les pouvoirs. C'est manifestement un arrangement stable. D'après leur livre d'histoire, cela dure depuis 2000 ans au moins, et probablement plus encore, sous une forme ou sous une autre. Mais cette situation pourrait être compromise de façon désastreuse s'ils découvraient au travers d'un contact avec nous ce qu'est la norme humaine. J'ignore si les hommes se cramponneraient à leur statut privilégié ou s'ils exigeraient d'être libérés, mais il est certain que les femmes s'opposeraient à la perte de leur pouvoir et leur système de relations sexuelles et affectives s'effondrerait. Même s'ils apprenaient à défaire le programme génétique qui leur a été infligé, il leur faudrait plusieurs générations avant de pouvoir rétablir la distribution normale des sexes. Je ne me sens pas capable d'être le murmure qui déclenche l'avalanche.
Ursula Le Guin va jouer sur les premières impressions. Laisser penser quelque chose d'une société, puis montrer le contraire. Dans la question de ces grilles, la vie des personnages est différente en fonction de leur position sociale et de leur position dans le groupe.
Vous êtes sur Radio Dragon et Campus Grenoble avec Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous parle du recueil de nouvelles « L'anniversaire du monde » de Ursula Le Guin.
Dans plusieurs nouvelles, Le Guin problématise le rôle des observatrices écuméniques. Dans Solitude, différents observatrices se heurtent à des problèmes de communication et à l'introversion des habitantes de la planète Ansoro, où les hommes vivent en ermite autour des petits villages des femmes, les cercles des tentes, qui elles aussi mènent leur vie relativement isolées les unes des autres. Tout ça rend cette société et sa culture complètement hermétiques aux personnes étrangères. Ayant compris que les seuls échanges se faisaient avec les enfants, une anthropologue s'installe alors avec sa fille et son fils dans un cercle de tentes, et au fil des années, les enfants apprennent effectivement avec les autres et transmettent ces informations à leur mère, qui ont fait un rapport pour l'écumène. La nouvelle est un appendice à ce rapport, rédigé par la fille, qui est donc baignée dans cette culture dès l'âge de 5 ans et qui fait part d'incompréhensions grandissantes entre elle et sa mère au sujet de l'organisation sociale sur Onsoro.
Notre vie de tous les jours dans le cercle des tentes était monotone. À bord du vaisseau, plus tard, j'ai appris que les gens qui vivent des existences artificiellement compliquées appellent ce genre de vie « simple ». Je n'ai jamais rencontré personne, où que je sois allée, qui ait trouvé que la vie était simple. Je crois qu'une vie ou une époque paraît simple quand on ne regarde pas les détails, de même qu'une planète semble lisse quand on est en orbite. Notre vie dans le cercle des tentes était assurément très facile, dans le sens où nos besoins étaient facilement satisfaits. Il y avait abondance de nourriture qu'on pouvait cueillir ou faire pousser et qu'on pouvait préparer et cuisiner. Plein de témas à cueillir pour ensuite les filer et les tisser afin d'en faire des vêtements et des couvertures. Plein de roseaux pour faire des paniers et couvrir les toits. Nous autres, les enfants, nous avions d'autres enfants avec qui jouer, des mères pour s'occuper de nous et beaucoup de choses à apprendre. Rien de tout cela n'est simple, même si ce n'est pas si difficile quand on sait comment s'y prendre, quand on a conscience des détails.
Dans la suite, la mère et la fille passent par un conflit ouvert. La mère juge la société sorovienne trop primitive pour permettre une vie épanouie, alors que la fille est complètement à l'aise dans ce mode de vie simple et introverti et ne veut pas quitter la planète. Après différentes étapes de négociation, elles finissent par trouver une sorte de compromis. La nouvelle nous permet de concevoir leurs deux points de vue. Et Le Guin soulève alors la question à quel point il faut apprendre par l'expérience pour comprendre certaines pratiques culturelles, et quel lien de confiance il nous faut pour accepter des points de vue éloignés des nôtres. Dans la nouvelle « Musique ancienne et les femmes esclaves », le protagoniste Esdan travaille depuis 40 ans pour l'ambassade écuménique sur la planète Vérel. Une société organisée par un strict régime d'esclavage, jusqu'à ce que 3 ans auparavant, un soulèvement ébranle le système établi et une guerre civile éclate entre les factions esclavagistes noires et les esclaves blancs libérés et leurs alliés. Lors d'une sortie de l'ambassade, Esdan est arrêté par le camp esclavagiste et est accusé de trahison. Ses ravisseurs l'amènent à Yaramera, une ancienne plantation à l'intérieur de leur territoire, et lui font subir des tortures utilisées auparavant contre les esclaves. Esdan essaye de comprendre laquelle des nombreuses factions qui se sont formées dans les deux camps l'a fait prisonnier afin de trouver quelle stratégie adopter. Il est pris au doute.
« Mais je ne sais pas dans quel camp je suis », pensa-t-il en retournant à son fauteuil près de la fenêtre. « Le camp de la libération, oui, bien sûr, mais qu'est-ce que la libération ? Ce n'est pas un idéal, la libération des asservis, plus maintenant. » Plus jamais. Depuis le soulèvement, la libération est une armée, un groupe politique, un grand nombre de personnes, de dirigeants et de gens qui veulent le devenir, d'ambitions et de convoitises qui entravent les espoirs et la force. Un pseudo-gouvernement d'amateurs maladroits qui oscille entre violence et compromis, toujours plus complexe et qui ne trouvera jamais la magnifique simplicité de l'idéal, la simple idée de liberté. Et c'est ce que j'ai désiré, ce pourquoi j'ai œuvré toutes ces années. Semer la confusion dans la noble structure hiérarchique des castes en lui injectant le concept de justice. Et ensuite, semer la confusion dans la noble structure de l'idéal d'égalité entre les hommes en essayant de le concrétiser. Le mensonge monolithique peut se déliter en un millier de vérités incompatibles. Et c'est ce que je voulais. Mais je suis pris dans la folie, la stupidité, la brutalité insensée des événements. Ils veulent tous se servir de moi, mais j'ai dépassé le stade où je pourrais être utile à qui que ce soit.
Très loin du statut de diplomate qui intervient dans les autres sphères du pouvoir avec une vue d'ensemble et une influence sur les enjeux géopolitiques, Le Guin nous fait plonger bien profondément dans l'intimité d'une personne ayant perdu tout pouvoir et traumatisée par ses expériences récentes de violence extrême. Esdan trouve alors du réconfort dans ses interactions avec les femmes esclaves qui se trouvent toujours sur le domaine.
Le bébé était petit et délicat, âgé d'un mois ou deux sans doute. Sa tête reposait avec une infinie patience sur l'épaule de sa mère. Il n'y avait personne d'autre sur les terrasses. Une légère brise agitait les arbres en fleurs derrière eux, dessinait des rides argentées à la surface de la lointaine rivière. « Ton bébé comme ça, tu sais, il sera libre, » dit Esdan. Elle leva la tête, non pour le regarder, mais pour regarder vers la rivière et au-delà. Elle dit « Oui, il sera libre ». Elle continua son travail. Il fut encouragé de l'entendre lui dire ça. Cela lui fit du bien de savoir qu'elle lui faisait confiance. Il avait besoin que quelqu'un ait confiance en lui, car depuis la cage, il n'avait plus confiance en lui-même. Avec Rayai, il se sentait à l'aise. Il pouvait encore faire des passes d'escrime, ce n'était pas le problème. C'était quand il se retrouvait seul pour penser, pour dormir. Il était seul la plupart du temps. Il y avait quelque chose dans son esprit, au plus profond de lui-même, qui avait été blessé, cassé, qui n'était pas réparé. Et il n'était pas sûr que cette chose puisse supporter son poids. Au rythme des nouvelles de l'anniversaire du monde, Ursula Le Guin nous fait traverser une multitude de points de vue. Des personnes opprimées ou dominantes, des observatrices de l'écumène ou des personnes qui rencontrent pour la première fois des gens venant d'une autre planète, des enfants ou des adultes. Elle joue souvent sur la difficulté de compréhension entre les personnages. Certains sont scientifiques et gardent une certaine distance, quand le récit d'autres est centré sur leurs sentiments et leurs émotions. Mais toujours, l'autrice décrit les enjeux relationnels et émotionnels. Dans la préface, elle explique.
Ces nouvelles ont une structure commune. Elles montrent, d'une façon ou d'une autre, par ou à travers un observateur qui a tendance à s'intégrer à la population, des gens dont la société diffère de la nôtre, dont la physiologie même peut être différente, mais qui ressentent les choses comme nous. D'abord créer la différence, pour établir l'étrangeté, puis laisser l'arc électrique des émotions humaines jaillir et franchir le gouffre. Ces acrobaties de l'imagination me fascinent et me comblent comme peu d'activités savent le faire.
C'est peut-être le livre où Le Guin va le plus décrire l'intimité, les corps, la sexualité de ses personnages. Elle va aussi parler de honte, de tabou et de violence, et décrire leurs conséquences sur les personnes et sur les sociétés.
Des petites aiguilles de douleur atroces transperçaient le bout de mes seins, brûlantes comme du feu. Quand je grimaçais et que je serrais mes bras contre ma poitrine, j'étais sûre que tout le monde pouvait voir ce qui se passait. Tout le monde pouvait me sentir. Mon odeur avait quelque chose d'aigre, de fort, comme du sang, comme les peaux brutes des animaux. Mon clitopénis se mettait à gonfler énormément et dépassait d'entre mes lèvres, puis il se rétrécissait et devenait minuscule, de sorte qu'uriner devenait très douloureux. Mes lèvres me démangeaient et rougissaient comme sous d'affreuses piqûres d'insectes. Au plus profond de mon ventre, quelque chose bougeait, quelque monstrueuse tumeur. J'avais terriblement honte, j'étais en train de mourir.
L'autrice creuse aussi les questions relationnelles, les sentiments qui lient les personnages entre eux, leurs attirances, leur manière de se lier ou leur peur. Elle décrit aussi la manière dont les relations sont façonnées par des règles et des organisations sociales. Les nouvelles viennent aussi questionner l'impact de la rencontre avec les Ainiens, du rapport de pouvoir ou d'autorité qui peut s'instaurer, et les transformations sociales et interindividuelles qui peuvent découler de ces rencontres.
« Pourquoi ne parles-tu pas comme il faut, Ruiwei ?» Elle n'a pas répondu. « Tu ne sais toujours pas parler ?» Elle a levé les yeux vers moi et elle s'est tout à coup lancée dans un long discours que je n'ai pas compris. « Comme je parle », a-t-elle dit à la fin, en me regardant toujours dans les yeux. C'était bien, j'aimais ça. La plupart du temps, je ne voyais que des paupières. Les yeux de Ruiwei étaient clairs et magnifiques, même si son visage était sale et maculé de sang. « Mais ça ne veut rien dire », ai-je dit. « Pas ici. Où est-ce que ça veut dire quelque chose ?» Ruiwei a fait encore un peu de gras-gras et elle a dit « Mon peuple ». Ton peuple, c'est les Teg, et ils combattent Dieu et ils se font battre. Peut-être, a dit Ruiwei, et on aurait dit Hag Hag. Elle m'a encore regardé dans les yeux, et il n'y avait plus de meurtre dans ses yeux, ni de crainte non plus.
Ces nouvelles interrogent aussi sur la question du repli sur soi, du nationalisme et du conservatisme.
Avec ses 168 pages, La dernière nouvelle, Paradis perdu, est plutôt un roman court. L'histoire se passe sur un vaisseau-monde qui a quitté la Terre pour rejoindre une autre planète vivable pour les humains, mais qui est tellement éloignée que le voyage va durer plusieurs générations. Les générations intermédiaires passeront alors toute leur vie sur le vaisseau en voyage. Après la mort de la dernière personne de la génération zéro, qui était déjà vivante lors du départ de la Terre, un culte de la béatitude commence à émerger, dont les disciples se nomment les anges. Xing discute avec son ami Louis d'une de leurs cérémonies à laquelle elle a assisté.
Fondamentalement, ils disent qu'il n'y a rien à l'extérieur. L'univers entier est à l'intérieur. C'est vraiment bizarre. Ils ont raison. Ah ? En ce qui nous concerne, ils ont raison. Il n'y a rien du tout à l'extérieur. Le vide, de la poussière. Les étoiles, les galaxies. Des points lumineux sur des écrans. Nous ne pouvons pas les atteindre, nous ne pouvons pas y aller, pas nous, pas de notre vivant. Ce vaisseau est notre univers. C'était une idée tellement familière qu'elle en était banale, et tellement étrange qu'elle en fut perturbée. Elle réfléchit. Et ici, l'existence est parfaite, dit Louis. Vraiment ? La paix et l'abondance, la lumière et la chaleur, la sécurité et la liberté. Oui, bien sûr, pensa Xing, et cela se vit sur son visage. Louis poursuivit. Tu as étudié l'histoire, toutes ses souffrances. Y a-t-il quelqu'un dans les générations sub-zéro qui ait jamais vécu aussi bien que nous? Même seulement moitié aussi bien. La plupart d'entre eux vivaient dans la crainte, dans la douleur. Ils étaient ignorants, ils se battaient pour des questions d'argent et de religion, ils succombaient aux maladies, aux guerres, aux pénuries de nourriture. C'était exactement comme dans la cité 2000 ou dans la jungle, c'était l'enfer. Et ici, c'est le paradis. L'ange Terry avait raison. Sa véhémence la laissa perplexe. Et alors ? Alors, est-ce que nos ancêtres se sont arrangés pour nous expédier d'un enfer à un autre en nous mettant provisoirement au paradis ? Tu vois le danger potentiel d'un tel arrangement ?
Dans cette nouvelle, qui mériterait bien une émission à part entière, tellement elle est complexe et intéressante, Le Guin réfléchit à l'évolution d'une société en huis clos, sans possibilité d'échange, de prise de distance ou de regard extérieur. À travers Xing et Louis, qu'on suit dès leur enfance, elle développe progressivement des questionnements sur le rapport à l'histoire, si le savoir et la mémoire deviennent entièrement virtuels, le rapport à l'inconnu et à l'insécurité, le besoin de croyances ou de sens propre à chaque génération.
Malgré la créativité d'Ursula Le Guin, ce recueil de nouvelles est un peu limité par certains aspects. Les relations sociales restent majoritairement hétérosexuelles, les genres des personnages sont fortement marqués ou alors décalés de manière un peu stéréotypée, et certains textes frisent l'homophobie. De la même manière, le romantisme amoureux reste un modèle central dans ce livre. Mais cette critique n'enlève pas la richesse de ces différents textes.
Nous arrivons à la fin du 23e épisode de Vortex et Rotative, dans lequel il était question du recueil « L'anniversaire du monde » de Ursula Le Guin, paru dans la traduction française de Patrick Dussoulier chez Robert Laffont et en livre de poche. En version poche, il fait 567 pages.
Cette émission est montée avec des extraits de l'album « Music and Poetry of the Cache », né d'une collaboration entre Ursula Le Guin et Todd Barton, pour créer une bande-son pour son roman « La vallée de l'éternel retour ».
Au revoir et à la prochaine.
Au revoir.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.